9h18 minutes, notre invité ce matin, le docteur Alain Vadeboncœur, nous propose son livre, le titre Malade, récit à savourer en attendant le médecin. Je précise que la préface est signée Simon-Olivier Fecteau. Docteur Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous racontez des vraies histoires.
Ah, c'est tout du vrai stock. Des fois, c'est agrémenté. Des fois, c'est modifié pour pas que les patients se reconnaissent. Mais essentiellement, c'est du vrai matériel.
Parce que, bon, et du matériel à différents moments de votre
oui.
vie. Donc, comme enfant, comme premier patient, la première fois à l'urgence.
Absolument.
Étudiant en médecine.
Ouais.
Puis après ça, la pratique.
Ça, c'est évidemment. La partie biographie un petit peu, parce que les bios, c'était à la mode de ce temps-là.
Fait que oui, j'ai fait
quelques chapitres de bio au début. Ce qui m'a mené à la médecine. En fait, le cheminement du jeune qui s'en va en médecine et qui apprend ça, puis qui débarque un jour à l'hôpital.
Parlons de votre premier contact
ouais.
à l'urgence.
Douloureux.
Ouais.
ouais.
Vous êtes blessé à l'œil.
Quand même une blessure assez... je sais pas si vous vous rappelez, les cours d'initiation aux sciences physiques. On jouait avec des longs thermomètres en verre là, de mercure. Et là, faire la rentrée ça, on a des bouchons. Il y en a un qui pète. Et donc, le long thermomètre me rend direct, pouf, sur l'arcade sourcilière, à peu près à un centimètre au-dessus de mon œil. Là, ça se met à pisser le sang, évidemment, c'est épouvantable. On m'amène à l'hôpital Saint-Jean d'Arc, où ma mère travaillait comme travailleuse sociale. Et le médecin, donc, doit me réparer ça. Il y a 6 points à faire. Puis lui, selon lui, ben une paupière, ça se gèle pas. Je sais pas si vous avez déjà eu des points.
Des points, oui. Ben, quand je lisais ça, je me disais, bon, peut-être que c'est vrai, que ça ne gèle pas, je sais pas.
Moi, c'est ce qui m'a beaucoup déprimé, c'est que 10 ans après, j'ai appris que c'était super facile, j'ai une paupière, il faut juste mettre l'anesthésique en dessous. Donc, il me fait 6 points.
À froid.
Et à froid. Et une paupière, c'est vraiment sensible. Je me rappelle de chaque passage de l'aiguille, j'ai l'impression. Et donc, ça m'a marqué. Je pense pas que c'est ça qui m'a donné de la vocation. D'ailleurs, j'avais assez peu de vocation de façon générale, mais ça m'a marqué. Je me rappelle comme hier. C'était mon premier contact avec l'urgence. Et j'aurais probablement pas deviné à cette époque-là que j'y passerais essentiellement ma vie professionnelle. Mais oui, ça a fait mal et je me rappelle encore du bonhomme. Pas avec beaucoup de sympathie.
Non, ça, j'ai compris ça. L'attrait de la médecine.
Ouais.
Parce que c'est pas on tombe pas en médecine par hasard 100%. Là. Il faut avoir un intérêt, il faut être
ouais.
passionné de science, il faut avoir le goût d'être en contact avec des patients. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés par le milieu de la santé.
Ouais.
Mais incapables de se retrouver avec un patient, ils n'avaient pas le goût de ça. Ils allaient vers d'autres formes de science.
Bon,
vous, qu'est-ce qui a connecté?
En fait, ça a été un peu le contraire. Moi, ma vocation est très tardive. J'aimais beaucoup
oui.
les sciences. J'aimais plus les sciences, les maths, la physique, des trucs comme ça. Quand j'ai fait ma demande en médecine, en fait, j'avais deux choix, maths ou médecine. J'étais admis dans les deux. Puis j'ai vraiment décidé, littéralement, 3-4 minutes avant la date limite là, de cocher médecine. Et j'ai pas beaucoup apprécié ma formation médicale. J'en parle un peu là-dedans,
oui.
les grandes classes, tout ça. Et en fait, j'ai même abandonné la médecine, en fait, en troisième année. J'ai arrêté carrément. Je suis parti sur le pouce. J'ai décroché. Et quand je suis revenu, ben, c'est l'externat. On arrive à l'hôpital. Et là, c'est les premiers contacts avec les patients, parce qu'on avait, à l'époque, on n'en avait presque pas. Et là, j'ai vraiment trippé. Et je me rappelle, c'était un stage de chirurgie. J'avais eu un stage de psychiatrie. Mon retour de voyage, ça avait marché moyen, mais mon stage de chirurgie, c'était vraiment dans un hôpital, c'était à Notre-Dame, et emmener les résidents, ceux qui sont plus vieux que nous, s'en aller une semaine. Et là, j'étais seul comme externe. Et là, j'ai vraiment trippé à l'hôpital, à soigner du monde, à m'occuper de choses très concrètes. Et ça, depuis ce temps-là, ben, l'hôpital, c'est resté l'endroit où je suis bien. C'est pas tout le monde, hein. Il y a du monde qui rentre à l'hôpital. Il n'aime pas trop ça. Moi, j'aime beaucoup ça, puis j'ai toujours aimé ça. Ça a été comme ça que c'est apparu un peu. Donc, c'est assez tardif.
Oui, puis ce que je découvre avec toutes les anecdotes, puis vous l'avez dit un peu, là, le parcours universitaire de la médecine.
Ouais.
Moi, j'ai entendu je ne sais pas combien de médecins qui parlaient, c'est pas cette expression, c'est patron là, qui encadre,
ouais.
Qu'on est sur le bord de la dictature, puis que quand on parle d'intimidation puis de harcèlement aujourd'hui, il y a des choses qu'on tolère plus, mais qui à l'époque étaient pratiques courantes.
Et en fait, j'en raconte une,
oui,
parce que bon,
ça.
Et je pense que ça se passerait plus, mais vraiment, moi, à emmener, j'étais externe, moi, j'étais peut-être un petit peu, disons, des fois, je mettais un peu de mélange dans les dossiers, des trucs comme ça. Il y a un hurlement d'un patron qui vraiment me tombe sur la tomate, mais vraiment de façon extrêmement violente, verbalement, là, pas physiquement. Et, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai découvert le sens de l'expression « chier dans ses culottes » à ce moment-là, parce que ça a failli arriver. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, puis c'était là. Mais ça m'avait vraiment sonné. Et donc j'étais dans une situation très inconfortable dans ça. Et bon, ben j'ai pris mon trou, parce que c'est ça qu'il fallait faire probablement. À l'époque, quand c'est quand même, on parle d'il y a 30 ans, là, je pense pas que ça se passerait encore comme ça là-dessus. Donc, j'en fais quelque chose d'un peu amusant, mais en fait, quand tu regardes ça de l'extérieur, c'est un peu violent. C'est souvent ce mix-là, d'ailleurs, dans les histoires d'hôpital, c'est qu'il y a toujours un côté un peu dur ou tragique, et il y a des côtés, des fois, un peu plus rigolos autour de ça. C'est ça ce que j'essaie de faire ressortir.
Parlons des patients, parce qu'il y en a de toutes les sortes.
De toutes les couleurs, toutes les sortes.
Des gens qui fréquentent l'urgence pour toutes sortes de raisons. Il y a une anecdote, puis je veux pas qu'on raconte toutes les anecdotes,
ouais, ouais.
mais ce patient qui attend, et qui parle qu'il y a un beep.
Ouais.
Répéter, et là, faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire.
Et c'est étonnant. Ben, en fait, ce qui est fascinant dans l'urgence, dans mon métier, c'est que chaque rencontre est une rencontre intéressante. Un peu comme vous, hein, quand vous rencontrez des gens, il y a toujours quelque chose dans la rencontre. Et chaque rencontre, il y a quelque chose. Bon, des fois, c'est ordinaire. Des fois, c'est vraiment, puis il y a des gens fascinants. Il y a des gens étranges aussi qui se présentent. Et donc, les gens se font, chez nous, se font poser beaucoup des pacemakers, donc en dessous de la peau, donc pour stimuler le cœur. Et l'homme, donc, consulte avec son fils parce qu'il est persuadé que son pacemaker fait beep. Et donc, il me raconte ça, il fait, puis il est bien énervé, puis c'est un costaud, puis il marche dans la salle d'attente, puis qu'est-ce qui va m'arriver, ça va-tu péter, est-ce que je vais avoir un choc, son voisin avait eu une aventure comme ça, donc lui, il est terrorisé par ça, il m'explique ça, puis bip, bip, il fait ça, puis son fils, il fait-tu bip, oui, il fait, mais en est, j'ai dit, c'est parce que j'ai vérifié, là, votre pacemaker, il peut pas faire bip, il est pas fait pour ça, ça fait pas, mais là, lui, il croit pas ça, non, je l'entends, puis ça dure un bout de temps, puis en est, c'est un peu décourageant des fois, ça se peut pas, tu sais, c'est pas impossible, puis là, on vérifie, puis là, son fils, appelez-nous à la maison, voir votre femme, je sais pas, puis il appelle, puis finalement, c'était l'air climatisé qui faisait ce bruit-là à la maison. Et donc, évidemment, là, ça l'a un peu, troublé. Et puis moi, j'ai prescrit à ce moment-là, dans mon dossier, si vous voulez ma note, il est vraiment écrit « faire vérifier l'air climatisé ». Parce que c'était ça qu'il fallait faire, effectivement. Donc, on en compte, effectivement, de toutes les sortes comme ça. Et des fois, on est pris avec des situations où les patients sont persuadés qu'il se passe quelque chose, alors que ça se peut pas.
Non, mais des patients aussi qui... je sais pas, moi, qui vont, j'ai mal au bras, j'ai mal, les troubles, ils vous indiquent le cœur pour eux, mais le cœur est pas là. Puis, comment vous faites pour les décoder? L'expérience, c'est sûr, là.
Mais... Ben, en fait, c'est ça notre métier, en fait. C'est de départager. Parce que chez nous, par exemple, moi, je suis un institut de cardio. Les gens consultent quand ils pensent que c'est leur cœur. Le cœur, les gens pensent à gauche. En fait, qui est plutôt au centre, mais ils pensent que c'est à gauche. Et donc, je vois beaucoup de gens qui ont mal au bras gauche. Curieusement, j'en vois presque pas qui ont mal au bras droit. Bon, mais ça, c'est. Mais mal au bras gauche, souvent, ils ont mal à l'épaule, ils ont une capsulette, ils ont des trucs comme ça. Puis c'est relativement fréquemment. C'est sûr que mon rôle comme médecin, c'est de départager qu'est-ce qui est dangereux là-dedans, qu'est-ce qui l'est pas. Et quand je suis convaincu que c'est vraiment à l'épaule et que c'est pas le cœur, ben là, j'explique du mieux que je peux que ça n'a rien à voir avec le cœur. Puis en général, ça fonctionne assez bien. Bien qu'il y a des gens qui sont très difficiles à rassurer ou qui vont consulter à répétition. Puis ceux-là, on finit presque par les connaître parce que ça devient, c'est pas une relation à long terme. On fait pas de suivi, mais il y a des patients que j'ai vus 20 fois, 30 fois, 40 fois dans ma carrière. Des fois, c'est des grands malades. Des fois, c'est des gens inquiets, des choses comme ça. Et donc, le rôle du médecin, c'est de départager ça, de rassurer. Mais c'est sûr que des fois, il y a des éléments un peu curieux qui apparaissent là-dedans, ou loufoque.
Il y a des médecins qui pratiquent en cabinet qui me disent, un patient qui vient me voir et qui n'a pas une ordonnance, qui n'a pas un médicament, il pense que je suis pas bon, il pense que j'ai pas donné le bon...
Absolument.
Ça, c'est comme un automatisme.
Ben, disons que ça s'est construit graduellement, ça, parce que je pense que les médecins ont eu beaucoup d'influence là-dedans, notamment si on prend les antibiotiques. On a prescrit beaucoup d'antibiotiques, honnêtement, pour rien. Et c'est devenu comme une espèce d'échange. Oui, je suis malade, j'ai besoin d'un antibiotique. Et là, on commence à déconstruire ça. Mais là, la population n'est pas nécessairement rendue là. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'un antibiotique, c'est important quand on a un virus. Et donc, il faut à chaque fois expliquer, déconstruire. Des fois, c'est plus long que de prescrire. Mais c'est sûr que si on continue à entretenir ça, on entretient le cercle vicieux, dans le fond. Donc, ça implique beaucoup de discussions avec le patient. D'où ces relations-là. Tu sais, ça se passe vite à l'urgence. C'est intéressant parce qu'on dit toujours, ah, c'est superficiel, ça se passe trop vite. Mais moi, je pense que dans chaque moment, il y a toujours une minute que tu peux prendre pour essayer de sortir un peu de l'aspect médical puis jaser un peu avec la personne. Puis là, tu découvres que, je sais pas, moi, c'est un coiffeur puis qu'il est arrivé quelque chose à son travail. Et tu découvres une partie de sa vie qui devient un échange beaucoup plus humain à ce moment-là, qui colore cette relation-là, même à l'urgence.
J'ai un ami, moi, qui considère que pour le moindre problème, la porte d'entrée du réseau de la santé, c'est l'urgence.
Ouais.
D'aller en clinique, c'est pas une option, on sait jamais ce qu'il a, puis on découvre... Bon, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un comme ça là, pour le convaincre qu'il y a d'autres façons de se faire traiter?
Ben, le problème, c'est que c'est parfois vrai et souvent vrai, parce que si t'as pas accès à ton médecin quand t'es inquiet, et ça, les gens qui consultent à l'urgence, en général, ils viennent pas parce qu'ils aiment ça passer 3 heures ou 8 heures dans une salle d'attente pour regarder la TV. Tu sais, normalement, c'est pas ça. Ils sont inquiets, ils ont des attentes et des fois, ils sont pas capables d'aller voir le médecin. On commence à améliorer ça, mais quand t'es pas capable de voir ton médecin, t'es inquiet, tu penses que ça file pas, même si au bout du compte, c'était pas quelque chose de grave, ben, a priori, tu le sais pas. Fait qu'il faut encore là expliquer, rassurer, puis des fois dire, ben, pour ce genre de problème-là, la prochaine fois, probablement que vous pouvez pas avoir de médecin. Puis là, ils te répondent, ouais, mais c'est parce qu'il est pas disponible. Ben là, il y a des choses à améliorer. Dans première ligne, on le sait depuis longtemps, ça.
Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça se détériore, la première ligne?
Première ligne, d'abord, on a des problèmes en première ligne, puis ça fait longtemps que c'est documenté. Je pense qu'on est en voie d'amélioration. Tout ce qui est fait depuis quelques années pour améliorer l'accès, la plupart des gens que je connais maintenant me disent « Ah, maintenant, c'est organisé différemment. Quand j'appelle mon médecin, je le vois dans deux jours, ou bien je peux voir l'infirmière praticienne, je peux voir ça. » Ça semble bouger, en tout cas, dans mon environnement direct. J'ai pas encore vu de données là-dessus, mais on sait qu'on a du chemin à faire parce qu'on est peut-être un des pires. D'ailleurs, une des causes qui fait qu'on a souvent recours à l'urgence, des fois pour des considérations un peu loufoque ou un peu bizarre, ou pour avoir des renseignements, ben c'est parce qu'effectivement, l'accès aux médecins est difficile au Québec. Ça, c'est bien documenté depuis très, très longtemps. Je pense qu'on s'améliore, on est sur la bonne voie, mais il y a bien du travail à faire là-dedans.
Moi, j'entends souvent, c'est peut-être un cliché, là, mais des médecins spécialistes, peu importe la discipline, qui me disent « Les médecins de famille ont tendance à nous envoyer des patients trop rapidement, ils devraient l'investiguer davantage. » Ils veulent pas aller plus loin, donc et là, bon, avec le fameux centre intégré là, des, ouais, pour les rendez-vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène réel, qu'on a tendance à trop diriger vers des spécialistes?
Je suis pas sûr. Non. Je pense qu'il y a une difficulté d'accès à l'investigation qui est bien documentée aussi en première ligne. Donc, envoyer des patients des fois à l'urgence parce que t'as pas nécessairement d'alternative non plus, parce qu'effectivement, l'accès aux examens, encore là, ça change beaucoup. Là, maintenant, depuis quelques années, l'accès, supposons, à l'échographie dans l'Est de Montréal, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup de tests qui sont accessibles directement du médecin de première ligne. Mais quand t'as pas accès à l'investigation, puis t'as pas accès à la consultation facilement, des fois, tu diriges effectivement. C'est une question d'organisation, c'est une question de fonctionnement, en fait.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent ce matin et qui disent, par exemple, regardez les chiffres ce matin, là, des records de 23 heures sur une civière.
Vous avez dit ça ce matin? J'ai pas remarqué ça.
Oui, ouais. Je pense que l'attente moyenne sur civière au Québec, c'est 12-13 heures. Puis dans certains cas, selon les hôpitaux.
Ah, ben oui, ça varie beaucoup.
23 à 24 heures.
Ouais.
Est-ce que c'est normal, pas normal, un patient qui est dans un corridor, il ne devrait pas être là plus de combien d'heures? Je comprends que ça peut varier selon les cas, là. Mais là, des 10, 12, 15 heures dans un corridor d'hôpital, c'est normal, ça?
Non, c'est pas normal. J'ai écrit un texte là-dessus dans l'actualité, il y a à peu près un an. Dans le fond, qu'est-ce qui fait que dans notre système, c'est pas mal comme ça, souvent, et ça varie selon les hôpitaux, mais c'est pas mal comme ça. Il y a des grands paramètres qui sont assez clairs si on se compare, parce qu'on se compare toujours à l'Europe dans ces affaires-là. En Europe, c'est non fantastique, tout va bien, ils font bien ça, ils sont bien meilleurs que nous autres. Oui, mais en Europe, c'est bien différent des autres. En France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lits d'hospitalisation qu'il y en a ici. En Allemagne, c'est la même chose. Et il y a beaucoup plus de médecins aussi. On n'est pas souvent conscient de ça. On dit que des fois, il manque de médecins, il y en a trop, il n'y en a pas trop. Mais en fait, de façon fondamentale, il y en a beaucoup moins qu'en Europe, dans plusieurs pays, là, l'Allemagne, la France, la Suède, etc. Et donc, il y a des différences fondamentales qui font qu'effectivement, ici, à l'hôpital, il n'y a pas de marge de manœuvre. Nos hôpitaux sont occupés à 90-92% de cet ordre-là, alors qu'en France, c'est 75%. Là. Quand il y a la grippe, il y a de la place. Et puis les patients montent. Puis c'est pas comme un gros enjeu. Ici, c'est un gros enjeu parce qu'on était à la limite tout le temps, parce que le système a été construit comme ça, malheureusement. Puis il y a bien des hôpitaux qui ont été fermés historiquement aussi.
Avez-vous subi le docteur bashing?
Est-ce que je l'ai subi, vous voulez dire, personnellement?
Oui.
Non, pas personnellement. D'ailleurs, c'est jamais très personnel. Il y a peu de médecins qui se font...
Par les patients.
Oui, c'est ça. Ça, personnellement, mais c'est plus l'aspect médiatique. Moi, ça, je dirais que c'est pas quelque chose qui m'affecte personnellement, mais j'ai vu énormément de médecins être affectés par ça, par ces relations difficiles-là, par cette perception des médecins qui, parfois, est justifiée en partie. Hein. Donc, les médecins ont vécu ça très, très difficilement. Plein de collègues qui ont presque fait des dépressions dans les dernières années suite à toute cette relation qui est difficile. Parfois, des difficultés qui sont fondées sur des vraies affaires, mais parfois sur un peu n'importe quoi. Mais oui, j'en ai beaucoup vu autour de moi.
D'être associé à des gloutons et à des gens qui...
Mais tu sais, il n'y a pas que du faux là-dedans. Je veux dire, les augmentations reçues par les médecins ont été importantes. Il y avait peut-être une raison historique à ça, mais c'est arrivé à un moment où le système de santé manquait d'argent, les gouvernements en général, et ça aboutit peut-être des fois à des revenus qui sont trop élevés, qui s'exagéraient dans certaines situations. Puis ça, on peut pas être... C'est difficile d'être en désaccord avec ça.
Je reviens au livre pour conclure, parce que, bon, évidemment, vous racontez des anecdotes qui vous concernent.
Ouais.
Ça veut dire aussi les gens qui travaillent avec vous.
Ouais.
Du personnel qui est confronté, parce que là, c'est une urgence, puis en raison de plus pour l'Institut de cardiologie, là, vous sauvez des vies, il y a des gens qui meurent. J'ai l'impression, à travers toutes les anecdotes avec le personnel,
ouais,
que tous ces événements-là, ça crée des liens très particuliers.
Absolument.
Parce que quand on travaille dans un milieu conventionnel, bon, ben, il y a une routine, il peut y avoir... Mais là, tous les jours, vous êtes confronté à des gens près de la mort, des gens qui meurent, des gens qui peuvent être agressifs. Il faut avoir une cohésion d'équipe, là.
Ben, en fait, je dirais même plus que ça. Là, c'est fondamental de travailler d'équipe dans ces situations-là. N'importe quelle situation d'urgence en salle de réanimation, le doc a beau, des fois, prescrire, mais c'est un travail d'équipe complet, là, tu sais. Puis si le préposé fait pas sa job, l'infirmier, ça, on fait tout ça ensemble. Et donc, on est confronté dans ce qui est un peu paradoxal dans le milieu. Mes histoires sont plutôt légères ou loufoques. Je fais sortir ça dans cet aspect-là. Il y a un côté comme ça, mais qui est mêlé à des drames et à des émotions qui sont extrêmement intenses. C'est ça qui rend le milieu très, très particulier. Mais comme dans n'importe quel milieu de travail, on a du fun à travailler aussi. Il y a des moments, tu sais, on rit pas, là, mais il y a des moments où, effectivement, il y a des décalages, il y a des trucs qui arrivent, qu'on se fait même des tours entre nous. C'est comme n'importe quel milieu de travail, mais dans un contexte où, parfois, les émotions atteignent leur paroxysme. Ça, c'est sûr que ça crée des liens. Je veux dire, quand tu perds un patient en équipe, ben, tu le perds en équipe. Puis ça, ben, c'est des émotions fortes qui nous traversent à ce moment-là. Faut continuer à travailler, mais il reste que oui, c'est un milieu qui est intense, mais c'est un milieu qui est très varié. Des fois, c'est des journées légères, des fois, et même avec les patients qui sont malades, c'est pas tout du monde en train de brailler. Là, c'est du monde qui des fois ont autant de plaisir que nous.
Il y en a
qui
vous appelaient à 3-4 reprises.
Ouais.
Puis ils se présentent pas. Puis...
Ben, il dormait sur sa chaise. Mais tu sais, des fois, tu peux passer. En fait, c'est parce que des fois, tu t'approches, tu dis, il est-tu mort? Puis là, non, il a juste endormi. OK, ben donc, tu passes de. On va lancer le code à. OK, ben réveillez-vous, il est peut-être temps qu'on vous évalue, là. Et donc, il y a de tout là-dedans. Il y a des gens qui.
Lui, il se pensait au ciel, là.
Ben lui, il dormait. En plus, il consultait parce qu'il avait de la misère à dormir. Ça. Donc, ça, c'est un peu paradoxal. mais en même temps, ça montre un peu la complexité de la nature humaine là-dedans. C'est. Les gens ont une vision de l'urgence comme des gens très sérieux, toujours dans le drame. C'est pas ça.
Mais c'est parce qu'on écoute des séries, là, hier, puis des trucs comme ça. Puis,
D'ailleurs, c'était pas pire. Il faisait ressortir le côté un peu second degré, des fois décalé. Mais il y a des séries où, effectivement, il y a toujours la face longue. Fait que là, quand tu découvres, c'est ce que Simon-Olivier Fecteau dit, quand tu découvres un peu l'envers de la médaille, tu te rends compte, ben non, c'est du monde humain qui ont des fois du fun, puis qui ont même du fun avec les patients, qui des fois peuvent avoir des bons moments. Puis des moments qui sont beaucoup plus difficiles, mais c'est ce que les gens ne voient pas non plus. Quand tu es dans une salle d'attente puis t'attends, comme ils racontent, ben, tu vois juste le côté un peu dur et drap. Puis des fois, le médecin n'a pas beaucoup de temps, donc il n'est pas accessible, etc. Mais il y a l'envers des médailles. C'est ce que j'essaie de montrer un peu avec, monter l'humanité de ça, peut-être, tout simplement.
Ah, ça se dégage très concrètement du livre. Merci beaucoup d'être venu.
Ben, merci beaucoup.
Alain Vadeboncœur, le titre du livre Malade, publié aux éditions Luxe, 9h35. Pause et on revient après.